est très heureux ce soir d'avoir une nouvelle fois l'équipe du TNP au sein de l'Université Populaire. Il y a déjà eu précédemment des interventions autour de pièces qui se jouaient au TNP lors des années précédentes. Là, ça tombait véritablement très bien, vu que j'étais à peu près au milieu du cours sur sexe et politique, et il y avait donc cette pièce à partir du 20 janvier Madame de Sade, donc ce qui permet le vote de Sade, évidemment, sur la question du sexe est d'une certaine manière incontournable par sa dimension un peu extrême dans le traitement de la question. La semaine dernière, il y avait, toujours dans le cadre de l'UP, au Comédia, une discussion sur le thème de la censure autour du film de Pasolini, Salaud, les 120 journées. Là aussi, on était dans une thématique très, très sadienne. Donc à la fois la question de la sexualité, la question du politique aussi, parce que le Marquis de Sade était également contemporain de la Révolution, et il a proposé, notamment dans son texte français, encore un effort, si vous voulez être républicain, quelques idées politiques. Je crois que la séance d'aujourd'hui, enfin, votre intervention, votre présence ce soir tombe à plein dans la thématique, mais c'est à vous de parler. Moi, je vous laisse la scène pour cette soirée.
Merci beaucoup. Merci. Vous voulez te présenter ?
Oui, je suis Audrey Laforce. Je collabore artistiquement aux diverses activités du TNP, ce qui justifie ma présence ce soir ici, aux côtés de Jean-Pierre Jourdain. Voilà.
Clémentine Verdier, je suis comédienne au TNP.
Jean-Pierre Jourdain, je suis directeur artistique du TNP. Et je viens parce que j'ai programmé donc Madame de Sade. Et voilà. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. Donc on a quand même travaillé chacun de notre côté. Et il est vrai que le fait que vous ayez en sujet de réflexion sexe et politique, on a envie d'aller plus loin que de rester uniquement sur Madame de Sade. Alors, si vous voulez, ce que je vous proposerai, c'est... Évidemment, je vais vous présenter Madame de Sade, et puis après, j'aimerais bien vous parler, enfin, on en parle ensemble, parce que je n'ai pas d'autorité particulière, si ce n'est d'être un passionné de Mishima, mais je suis permis de faire des parallèles entre Sade et Mishima, et peut-être ça peut nous aider à discuter ensemble. Et je donnerai les points de ces parallèles qui sont nombreux entre Sade et Mishima, et qui évidemment sous-tendent complètement le propos de Madame de Sade. Alors, d'abord, commençons par la pièce, que c'est ça tout de même notre travail, et c'est ça qui peut nous donner l'occasion de nous retrouver ensemble. Madame de Sade est donc une pièce de Mishima qui a été écrite en 1965. Cette pièce ne présente que des femmes, et il est question de Sade du début à la fin, et Sade n'est pas là. La pièce se déroule en trois périodes, qui sont en gros les trois grands emprisonnements et les trois grandes cavales de Sade. Ça se passe dans le salon de la belle-mère de Sade, tout ça est exact, Madame de Montreuil, en présence de Madame de Sade, en présence de la sœur de Madame de Sade, et en présence d'une dame qui s'appelle Signan, je crois, et qui est une amie d'enfance de Sade. Ça, c'est la partie tout à fait réaliste, si je puis dire, enfin puisée dans le réel. Ça, c'est vrai, ces figures-là ont existé. Et Mishima a inventé Madame de Saint-Fond, grande catin devant l'Éternel. Il l'a inventé, on pensait très bien qu'elle existait près de Sade, mais elle n'avait pas forcément ce nom-là. Et il a donné une présence pas tellement articulée sur le plan de la pensée, mais une présence visuelle et sourde, qui est évidemment celle de la bonne, et on sait ô combien elle est sourde et ô combien elle va être intéressante, puisque ça se passe exactement pendant la période de la Révolution, c'est-à-dire ça commence en 1772, et le dernier acte s'arrête en 1790, après la Révolution. Les six femmes sont réunies dans le salon de Madame de Montreuil, et à chaque fois reparlent des fameux scandales que Sade ne cesse de produire par ses écrits et par ses comportements. Et on observera tout le temps, le mot est difficile de dire, en tout cas la compréhension au sens pas tellement de l'argumentation, mais de l'écoute d'une femme qui reste profondément son épouse. C'est-à-dire, elle accepte le destin, en fait, c'est ça. Elle, quand on dit on est marié pour le meilleur et pour le pire, elle va le vivre. Avec ce que ça a d'intenable, dans une époque évidemment particulière pour les aristocrates, on est chez les aristocrates, hein. Madame de Montreuil, tout ça est vraiment tout à fait dans le haut de l'aristocratie. Hein. Donc ça chauffe pour eux dans la rue, et ça chauffe pour eux dans les salons, puisque Sade, depuis quelque temps, fait scandale sur scandale. Alors, le premier scandale, c'est les fameux bonbons à la cantharide, vous avez peut-être entendu parler, qui est le grand procès. Au fond, Sade va passer 27 ans en prison, ou en hôpital psychiatrique, mais en fait, il n'y aura pas de jugement. À chaque fois, ce sera des scandales qui vont rester des scandales, qui vont justifier qu'on l'interne, mais ça ne sera jamais jugé. Et ça fait un moment qu'il fait scandale par ses écrits et par son comportement, par des témoignages qui sont faits de femmes qui ont témoigné d'avoir été pris dans les rêves de Sade et d'avoir vu des scènes de flagellation ou d'avoir été flagellé, enfin bref. Donc, en quelque sorte, la police des mœurs est sur lui et l'affaire devient terrible avec les fameux bonbons à la cantharide. Bon, la cantharide, c'est un aphrodisiaque. En fait, la cantharide, c'est une mouche espagnole qui, paraît-il, c'est vrai que c'est tout à fait vrai, séchée a des vertus aphrodisiaques assez importantes. Et il fabriquait ses bonbons et il en a donné lors d'une orgie à 4 filles qui se sont plaintes d'après de maux terribles d'intestin et de vomissements. Bref, elles se sont senties empoisonnées et elles vont raconter l'orgie. C'est une vraie orgie sadienne. Donc tout ça, évidemment, d'un seul coup, était sur la place publique et tout le monde... Et Sade a fui, évidemment, et il est rattrapé par la police. Et il sera enfermé. Mais le jugement n'aura pas lieu. En plus, il va y avoir des histoires d'argent et on étouffera l'affaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les bonbons à la cantharide, on est dans une époque très particulière, n'est-ce pas ? Une époque où les têtes vont tomber, où une révolution, vraiment, on va ériger des lois et ériger un comportement de vie sur un fond social. En ce qui concerne l'aristocratie, il faut dire extrêmement perverti. Les bonbons à la cantharide, on les appelait les bonbons de Richelieu, quand même. Il en vendait énormément. C'est pour vous dire que, ça, on peut dire, oh oui, c'est scandaleux que ça ait fait ça, mais en fait, on les appelait les bonbons de Richelieu et tout le monde en prenait. Et il disait partout qu'il n'arrêtait pas d'en prendre. C'était certainement pas pour prier plus fort, on voyait très bien pourquoi. Donc, il faut bien se rendre compte de l'époque elle-même. Alors, Mishima va rêver sur cette Madame de Sade, cette énigmatique Madame de Sade, qui va vraiment, tout au long de cette vie étrange, puisque 27 ans d'emprisonnement, ça fait quand même pas beaucoup de vie commune, elle aura quand même deux enfants de Sade, donc pas rancunière, elle ne fermait pas son lit en tout cas, et cette Madame de Sade qui supporte toutes ces rumeurs, vraiment, à un degré très très grand, l'abjection, vraiment, le comportement est terrible, eh bien, elle va au Posapa, elle se rend dans les prisons, elle lui rend visite, elle essaie de... Ils connaissent évidemment énormément de gens, c'est la haute aristocratie, donc ils essaient de rencontrer les juges et de mettre ça dans une meilleure prison. Enfin, elle ne l'oublie pas du tout et elle ne cherche pas du tout à le fuir et elle reconnaît qu'elle est Madame de Sade. Et l'énigme qui va déclencher l'imaginaire et la plume de Mishima, ça c'est une réalité, c'est que lorsque c'est les sans-culottes, n'est-ce pas, qui libèrent Sade, on en parlera tout à l'heure, les sans-culottes libèrent Sade, le libère de leur... En fait, c'était pas vraiment la Bastille, parce qu'il était à Charenton en ce moment-là. Le libère, enfin, ça revient à ça, le libère, et dit, bon, enfin, cet homme, après tout, ben voilà, on dira pourquoi, on essaiera de trouver ensemble pourquoi, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr, mais c'est un acte assez incroyable, rentre enfin au domicile conjugal, après 27 ans d'une cavale épouvantable, complètement transformé physiquement, c'est un homme très abattu, assez laid et complètement défait par cette vie terrible. Et de ce jour-là, il est, alors dans la pièce, c'est vraiment ça qui se passe, je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé, mais en fait, jour pour jour, c'est quasiment ça. Là, dans la pièce, il toque à la porte, la bonne dit « c'est monsieur de Sade », ça sera la dernière phrase, et elle s'en va et elle rentre dans un couvent. Et ça, c'est vrai. Elle termine sa vie au couvent et elle ne veut pas lui parler, alors qu'il est libre. Et il terminera sa vie avec une actrice qui l'accompagnera jusqu'au bout et qui sera fidèle à sa pensée, d'ailleurs, et, parce que Sade commence à avoir à ce moment-là le statut d'écrivain. Et donc, Mishima rêve absolument de cet acte, pour lui énigmatique, et il se met à la tâche. Et il se met à la tâche alors qu'il a une passion profonde pour la France, pour l'Occident, et particulièrement la France, et particulièrement pour la Révolution. Une passion pour l'écriture du XVIIe siècle, c'était un grand lecteur de Racine, et un grand, grand connaisseur de la Révolution française. On aura l'occasion, lorsqu'on fera le parallèle entre Sade et Mishima, de revenir sur ce pourquoi Mishima pouvait être intéressé. Donc, alors sur la pièce elle-même, donc il y a 6 femmes. Elle a été montée assez rarement. Elle a eu un immense succès dans les années 80. Elle a été montée sous la houlette d'Antoine Vitesse, qui l'avait commandé à une jeune metteur en scène de l'époque inconnue, c'était une femme qui s'appelait Sophie Lukaszewski, et ça a été un énorme, mais vraiment énorme succès. Moi, depuis que je suis au théâtre, je n'avais jamais vu un succès pareil. Les Américains voulaient le tourner en film, enfin un truc absolument incroyable. Et alors, c'est un spectacle qui a beaucoup marqué les gens qui l'ont vu, c'est un spectacle qui avait un énorme charme et mystère, elle avait distribué toutes les femmes par des rôles d'hommes. Et à l'époque, elle développait la théorie du fameux Nagata. Alors, il faut savoir que Mishima a fini sa vie mariée, mais aussi avec un compagnon affichant une homosexualité qui passait par, entre autres, une liaison très forte avec un Nagata. Nagata, c'est les acteurs dans le théâtre Kabuki à qui les dévolus les rôles de femmes. Ils passent leur temps à jouer les rôles de femmes. Ce n'est absolument pas des êtres efféminé, ça n'a absolument rien à voir avec le travesti. C'est vraiment c'est l'art du signe, hein, le Japon. C'est un signe, et ils travaillent toute leur vie ce signe. Et il n'empêche que là, il avait une homosexualité, enfin, au fond, rien à voir. Et donc, ça a été monté avec des hommes en Onagata. Ça a eu un énorme succès. Et au fond, c'est la première fois, de nouveau, la pièce est remontée là. Elle a été montée d'autres fois de façon plus incertaine. Là, elle remporte aussi un très très grand succès. Et c'est monté qu'avec que des femmes. Je dois vous dire qu'en ce qui me concerne, je trouve que ça apporte quelque chose que ce soit que des femmes. Alors, c'est des très grandes actrices, mais il y a quelque chose, il y a une vibration, il y a que je trouve. Enfin, ça rend la chose. Comment dire C'est vraiment le reflet de Mishima, le reflet de Sade sur les femmes. Et je trouve qu'en faire entièrement une affaire d'hommes, même si c'est des hommes qui font les femmes, ça devient, on reste dans un genre de appropriation même intellectuelle, je trouve, qui ne va pas. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est précisément comment, on voit bien au cours des siècles, et surtout les siècles de Sade, au fond, c'est les hommes qui prennent la plume, beaucoup. C'est les hommes qui ont les idées révolutionnaires et les femmes peinent à construire une œuvre, on peine à les entendre. C'est pour ça que je trouve très intéressant d'avoir quand même des actrices qui ne sont pas des pâles reflets de ce que dit, qui réfléchissent au sens du miroir la pensée de ça puisqu'il n'est plus là. Et il y a une dispute, c'est en fait une pièce d'argument sur la situation et les 3 étapes avant la révolution, après la révolution. En gros, on discute dans le premier acte du fameux scandale des bonbons à la Cantaride, donc des viols et de martyrs quand même, hein, ils fouettaient, de la sodomie, enfin bref, tout y passe, Sade n'a absolument aucune limite, Donc là, les limites sont atteintes. Il n'y a que le crime qui n'est pas fait sur ces quatre femmes, mais ça va quand même très très loin. Les récits sont très... C'est très fort, hein. Très terrible. Le deuxième mouvement, alors ça fait partie du premier mouvement. J'ai un trou sur le deuxième mouvement, excusez-moi. Le deuxième mouvement, oui.
Oui, c'est ça, c'est Anne, la sœur qui arrive.
Voilà, la sœur arrive, c'est la réalité. La sœur de Madame de Sade a été violée par Sade, violée, et elle s'en trouve très bien. Et elle raconte ce viol, avec l'horreur que ça a, et l'extraordinaire jouissance d'avoir trouvé son tyran, et elle revient d'un voyage en Italie en disant « c'est merveilleux, on s'est envoyé en répertoire ». Un truc vraiment doublement scandaleux. Et ça, c'est absolument la réalité. Et donc, double récit. Et le troisième récit, c'est celui d'après la Révolution, et où, au fond, le tableau qui est donné dans cette aristocratie, dans chez Madame de Montreuil, de toutes ces têtes coupées, de cette barbarie, de ces flots de sang, curieusement, c'est comme si les écrits de Sade s'incarnaient. Le plaisir que peut prendre le peuple à aller à l'édiotine, tout ce qu'ils ont pu voir, et là, entre autres, le tableau décrit Madame de Saint-Fond qui sera guillotinée pour elle, parce qu'elle était une catin. Ce sont des scènes absolument de la Révolution. Rappelons-nous, c'est Madame d'Aumale, n'est-ce pas, là, enfin, celle qu'on soupçonnait d'avoir eu des rapports avec Marie-Antoinette. Madame d'Aumale, on lui a coupé la tête, on l'a mis au pied d'un pic et on l'a agitée devant la reine en disant « voilà ta putain, voilà ce qu'on en a fait ». Enfin, c'était quand même aussi ça, la Révolution. Donc, d'un seul coup, les écrits de Sade passent dans une espèce de réalité. Et voilà, ça c'est la pièce. On va regarder, si vous voulez, quelques photos. Hein. Et puis, alors moi je ne sais pas changer les photos. Alors, là, voilà, ça c'est Madame de Sade. Donc il y a tout un travail, évidemment, que vous pouvez voir. Ça se joue comme sur une sorte d'échiquier, qui est le grand le salon. Cet échiquier, évidemment, montre à quel point les arguments sont là des armes, enfin, la façon dont ça s'équilibre. Et vous voyez, ben voilà, il y a tout un rêve qui est très beau de la part de la costumière, ce rêve sur à la fois les coiffures et sur la robe du 18e. Vous savez que les coiffures, au moment de la Révolution, on y a vu évidemment un symbole incroyable, puisque au moment où les têtes vont tomber, les coiffures n'ont jamais été aussi hautes et aussi inventives. C'est incroyable. Il y en avait qui portaient vraiment des bateaux, des fruits. Enfin, c'était devenu plus. On montait de plus en plus. Et c'est évidemment symboliquement quelque chose qui est très perturbant. C'était les aristocrates juste avant que leur fameuse tête soit détachée. Et il y avait l'encombrement de ces robes du 18e qui, ici, sont des robes cages, en fait. Ce sont des cages de métal très souples. On ne le voit pas, c'est très bien fait, elles ont des petites roulettes en bas, et elles peuvent se déplacer, c'est absolument énorme hein, sur le plateau. Ce qui donne cette sensation comme ça aussi, du corps féminin tout coupé, en représentation, enfin, et de temps en temps, elles s'échappent de ces robes, ce qui nous donne deux manières de discuter. Le salon, la représentation, la pompe, ce que l'on est, et puis j'enlève les arguments et je suis quelqu'un qui, là aussi, est pris aux abois et doit trouver des idées. Voilà. C'est les seules photos qu'on met, ou il y en a d'autres ou... Voilà. Bon, ben voilà. Ça vous donne un aperçu de... Ça, c'est encore Madame de Sade. Je pense que tu pourrais nous lire... on peut entendre comme ça, comme on dit en musique... de Madame de Sade.
Je vais vous lire donc un passage du début, la première scène, la scène d'ouverture, qui est une scène entre, comme Jean-Pierre l'a dit, entre Madame Saint-Fond, donc la grande libertine, et Madame Timiane, qui elle est une dévote. Et donc ça fait que Mishima fait une première scène de dialogue un peu où la libertine s'amuse à provoquer la dévote. Elle a sa cravache, elle s'amuse. Donc, et puis, il en profite pour resituer, remettre en contexte et rappeler au public, et donc apprendre au public cette fameuse histoire des bonbons.
Je veux juste te dire que la dévote, pour pas que ce soit trop caricatural, c'est un peu plus que la dévote. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, Mme Signan était l'amie d'enfance de Sade. Et il faut savoir que soit Sade était un enfant surdoué, extrêmement intelligent, qui a vraiment fait des études très brillantes et qui, partout où il est passé, et il avait une éducation au plus haut niveau, évidemment, puisqu'il sortait de la grande aristocratie, une éducation essentiellement distribuée par des prêtres, dont d'ailleurs certains ont fait partie de parties galantes alors qu'il était enfant. On voit déjà le degré de perversion qu'il y avait partout. Et Madame Simiane est secrètement amoureuse de cet enfant surdoué, et elle a pris le parti de dire que, de toute façon, il est tellement doué qu'on invente parce qu'on est jaloux de sa beauté, de son intelligence, que c'est pas vrai tout ça. Donc elle s'enferme dans une chose qui n'est pas simplement de la bigoterie stupide. C'est une grande amie, et après tout elle dit, mais on est méchant avec les aristocrates en ce moment, on invente des choses, et ça elle a toujours aimé provoquer, mais enfin, il est tellement doué, c'est pas vrai, on peut pas dire ça. Et c'est intéressant parce que c'est vrai. Sade était très doué, très intelligent, et pouvait séduire quantité de gens, et d'ailleurs il l'a fait de façon absolument étourdissante. Pas seulement séduire sexuellement, séduire intellectuellement, les gens ils perdaient leur latin et ne savaient plus si au fond tout ça était si grave, et si tout ça ouvrait d'autres portes, ils savaient très bien se défendre. Donc Madame Simiane représente cet attachement, voilà, à ça. Et l'autre a fait le pas, et elle est la vraie Catin, la vraie... Elle aime ça, et elle dit que c'est ça la liberté.
Donc moi, vous n'aurez que Madame Saint-Foy, Madame de Saint-Foy. Le 27 juin, donc, il y a 3 mois, Donatien, Alphonse, François, marquis de Sade, fut à Marseille avec son valet Latour. Au matin, 4 filles furent réunies par Latour dans une chambre qui se trouvait au 4e étage de chez Mariette Borelli. Celle-là, Mariette, avait 23 ans. La seconde, Marianne, en avait 18. Les 2 autres, Marianette et Rose, 20 pareillement. Ai-je besoin de dire que toutes les 4 étaient des putains ? Le marquis de Sade portait un habit gris, rayé bleu, un gilet de soie orange, une culotte pareille. Ses cheveux blonds étaient coiffés d'un chapeau à plumes. Il avait une épée à la ceinture, une came à la pomme d'or, à la main. Dans la pièce où attendaient les filles, il tira de sa poche une poignée de pièces d'or, en gageant de coucher d'abord avec celle qui devinerait le nombre exact de louis contenu dans sa main. Ce fut Marianne qui gagna. Alors il fit sortir les 3 autres, mais le valet resta, et il lui donna l'ordre de s'étendre avec la fille sur un lit. D'une main, il fustigea la fille, tandis que de l'autre, vous savez, il excitait le sexe du valet. Comme si, et comme ça. Signez-vous, madame, signez-vous, tant que vous voudrez. Vos signes de croix vous empêchent de vous boucher les oreilles. Et rappelez-vous que vous ne sauriez prier en vous bouchant les oreilles. La volonté de Dieu est qu'en ce moment vous écoutiez ce que je raconte. Bien. Donatien de Sade, prenant la place de son valet, disait à celui-là, Monsieur le Marquis, et se faisait appeler La Fleur. Ayant prié son maître prétendu de sortir, ce fut pour montrer à la fille une bonbonnière en cristal cerclé d'or qui contenait des pastilles anisées. Voilà ce qui te débarrassera des vents qui te ballonnent. Ne crains pas d'en manger beaucoup, dit-il à la créature. En réalité, les pastilles étaient aphrodisiaques, enrobées de sucre et de cantharide pilé, de mouches espagnoles. Sans doute en connaissez-vous la vertu ? Vous eussiez pu en avoir goûté à l'occasion et n'auriez pas eu tort. Maria avala 7 ou 8 de ces pastilles. Le marquis, alors, il lui promit un louis, à condition qu'elle se laissât faire une certaine chose. Cette certaine chose à laquelle vous ne détestez pas de faire allusion parfois. Quand le soleil se lève, en face d'une statue de Vénus, dressée au centre d'un jardin, le premier rayon doré pénètre le sillon qui sépare des cuisses de marbre blanc comme la neige. Dites-moi, l'endroit de Vénus qui sera pénétré par le dernier rayon. quand le soleil aura tourné autour du jardin pendant une demi-journée et qu'il sera prêt d'aller se coucher derrière la forêt. Après la chose, Donatien Alphonse produisit un martinet armé d'épingles courbes et fort taché de sang, usagé certes, qu'il remit à la fille en lui donnant l'ordre de le fustiger. Il y a, chez Donatien de Sade, un appétit peu commun de la certitude. Plus tard vint le tour de Mariette, qui avait été rappelée. D'abord, il la fit se dévêtir et s'agenouiller au pied du lit pour la fouetter sans rémission avec un balai de bruyère. Puis, il lui commanda de le fouetter à son tour. Pendant qu'elle le fouettait, Donatien, avec un couteau, marquait le nombre des coups au tuyau de la cheminée. Des séries de 215, 179, 225, 240, ce qui, au total, les nombres l'ont toujours fasciné. Les nombres qui portent plus de certitude que quoi que ce soit au monde. Mais par la multiplication des nombres jusqu'à l'infini, le mal devient miracle. Les miracles du marquis de Sade ne se manifestent qu'après des accumulations de certitudes, fondées sur l'épuisement des sensations. Ce sont des miracles qui n'ont rien de commun avec ceux qu'attendent les paresseux. À Marseille, poussant les autres à redoubler d'efforts, il s'unissait à Mariette et à son valet comme à la chiourme d'une galère qui va sur la mer. Le marquis fit une sieste pour se préparer à la séance de l'après-midi.
Merci. Alors, on voit bien qu'elle dit tout ça à Madame Simiane, qui évidemment est pétrie de religion. La notion de miracle, là, est évidemment hautement provocante et n'a d'autre que de parler au fond de l'illumination. C'est-à-dire Madame de Saint-Fond a eu l'illumination. Il en sera question quand on parlera de Mishima, puisqu'il est sous l'influence du bouddhisme. Mais on passe une autre logique. Et c'est ce que dit Madame de Saint-Fond. Il existe, et c'est ce qu'on dit, les gens qui ont défendu ça. On en reparlera tout à l'heure. Mais là, c'est évidemment hautement provocant d'aller prendre la notion de miracle pour ce moment-là. Et alors, on va faire ce qu'on a dit. Je vais vous donner, pour ne pas mobiliser moi la parole, mes amis sont autour, on va appuyer vous-même. Je pense qu'il faut que vous entriez dans que ce soit une conversation, parce que sinon ça va être assommant. Je me propose de vous donner, alors, c'est les points qui me semblent très forts entre Sade et Mishima. Et ça peut-être nous permettre de discuter. Alors je vais les lire parce que j'ai fait ça tout à l'heure. En fait, je m'en étais moi-même pas tout à fait rendu compte, j'avoue. C'est l'occasion de votre... J'ai couché sur le papier et ça m'est apparu et ce que je veux dire n'est pas faux. Il y a certainement d'autres choses, mais ça peut nous servir parce que c'est assez intéressant. Alors, d'une part, il y a... j'ai calculé, donc il y a 185 ans qui les séparent. Alors, Mishima, pour tout le monde, hein, c'est un auteur japonais, et il s'est donc, il a écrit, il est mort à 45 ans, il aura une œuvre importante, dont on parlera tout à l'heure, mais qui aura tout de suite eu un immense, immense succès, et c'est l'auteur japonais international. C'est l'auteur le plus connu dans les années 60. Hein. Il a failli être prix Nobel, la petite histoire raconte qu'il l'a eu, et peut-être ça c'est vrai parce que c'est très japonais, et qu'il l'a refusé pour le donner à Kawabata, à son ami Kawabata. C'est tout à fait dans la tradition du Japon et la tradition de Mishima dont on verra le respect des anciens. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai, je l'ai lu à plusieurs reprises. Il était extrêmement connu. Et il est mort, alors il a laissé une œuvre conséquente, cinématographique, théâtrale et romanesque, très importante. Et il est mort de façon spectaculaire dans les années 70, puisqu'il a fait le fameux seppuku quasiment en public. Bon, le seppuku, le nom plus vulgaire est harakiri. Seppuku, c'est le nom sacré, donc c'est l'éventration. Donc c'est la mort des samouraïs. Et il l'a fait publiquement. Il l'a fait publiquement, alors ça a évidemment été commenté sur toute la planète. Hein. C'était un personnage considérable. Évidemment, c'est un acte qu'on n'avait pas vu depuis des années. Un siècle, quand même. Et il l'a fait en action de désespoir. Le dernier acte de sa vie est partagé entre la grande tragédie et la pantalonnade. Il entre au ministère des armées, comme il est très connu, il a un entre-gens formidable, et il dit qu'il veut voir le grand général pour lui montrer un sabre célèbre du 17e. Au Japon, évidemment, tout le monde est étourdi par les armes. Donc, évidemment, le pauvre général n'y voit pas malice. Il lui dit, mais bien sûr, viens et montre-moi ce fameux sabre. Et en fait, il arrive avec quatre personnes de sa milice, et il ligote le général pour pouvoir avoir accès à toute la caserne, ouvrir les fenêtres du bureau du général, toute l'armée est là, et leur dire, vous courez à votre perte, vous faites des bêtises, il faut réinstaller l'empereur, blablabla. Et toute la jeunesse qui est à ses pieds hurle de rire en disant, vieille tata, tu nous emmerdes, ça va, ton Japon n'en a ras-le-bol, enfin vraiment ça, hein. Et il rentre, et il dit, alors à ce point-là, c'est fini, c'est tout. Donc, il s'habille en seppuku, c'est-à-dire torse nu, et il enfonce le sabre, et il le fait. L'assistant, vous savez qu'un seppuku se fait avec un assistant, puisqu'on ne meurt pas de ses ventrées, on a une extrême souffrance, et l'assistant regarde si les tripes commencent à sortir, et quand les tripes commencent à sortir, c'est le signe d'une violente souffrance et qu'il a réussi son seppuku. À ce moment-là, l'assistant a un petit couteau, et il coupe la carotide de celui qui et il le tue. Et normalement, l'assistant se tue après. Ce qui est d'ailleurs ce qui va se passer, l'assistant va se tuer après. Tout ça se fait dans un Japon des années 60, où on ressuscite des vieux spectres du Japon entier. Le Japon n'en revient pas de voir ça. Et tout ça dans la rigolade, que personne ne pense qu'il va le faire, et tout le monde est saisi. C'est la tragédie de la pantalonnade. Alors ça m'a marqué considérablement les esprits. Le Japon va être très embarrassé de la figure de Mishima. On en parlera pourquoi. Mais voilà, bon, ça c'est Mishima. Et il avait 45 ans quand ça s'est fait. Alors, moi, les parallèles que je peux faire, et après, mes amis viendront commenter, et vous-même, si vous avez des questions, et on pourra creuser. Alors, ils ont une même origine sociale. C'est-à-dire, Sade appartient à l'aristocratie. Mishima appartient au haut de la société japonaise. C'est-à-dire, un grand-père d'origine paysanne, au Japon c'est très important, parce qu'évidemment il y a beaucoup, la paysannerie est très importante. Les paysans, par son père et par la grand-mère, qui aura un rôle très important, la grand-mère, elle, se recommande d'une grande lignée de samouraïs, c'est-à-dire, alors là, le fin du fin du Japon, ceux qui donnent leur vie pour l'empereur. Et en fait, il va être élevé par sa grand-mère. Grand-mère apparemment tyrannique et vraiment terrible. Et elle va élever cet enfant dans une espèce de Japon ancien, de tyrannie, et qui sont des sens divines. En gros, c'est ça. Il faut savoir que le Japon, c'est ça, quand même. Hein. Ils sont des sens divines. Donc, ça, on peut dire que l'aristocratie n'est pas très loin de ça. En tout cas, ils sont protégés de Dieu. En direct, ils sont choisis, ce sont des élus en quelque sorte. Donc on peut dire que là il y a deux origines semblables malgré 145 ans d'écart. Après, les deux apparaissent dans des époques extrêmement troublées. Bon, Sade, c'est la révolution, ça n'est pas rien en France, et Mishima, les années 70, Mishima né en 1920. Donc, il a 1925, donc il a exactement 20 ans quand la bombe atomique explose, quand les deux bombes atomiques vont exploser. C'est extrêmement, ça c'est vraiment, je pense, le parallèle le plus intéressant. Parce qu'ils sont tous les deux aux prises avec une société qui va totalement changer. La révolution, je vous en fais grâce, vous la connaissez, peut-être sur le Japon, on se rend moins compte de ce que ça a été. Mais c'est une révolution que ces deux bombes atomiques. La révolution vient du fait que non seulement il y a la capitulation, ce qui, pour un peuple de guerriers, est très difficile à accepter parce que pour eux, c'est une capitulation injuste. C'est-à-dire, on ne peut pas se battre contre la bombe atomique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité et pour eux, ça sort du code guerrier. On ne peut quand même pas dire non. Sans soutenir l'extrême droite japonaise, l'autre a quand même passé avec son little boy au-dessus tout seul, il a largué ses deux trucs, il est reparti. Ça a quand même fait des milliers de morts. Les Japonais ne sont pas des enfants de cœur. Mais enfin, tout de même, dans la logique guerrière, il est vrai que... Et alors, non seulement il y a capitulation, parce que la capitulation n'a pas été faite tout de suite, n'est-ce pas? Il y a eu Hiroshima, et il n'a pas capitulé, donc on leur a bombé, on l'a mis Nagasaki, et là, en quelques jours... C'est-à-dire qu'ils ont le sommet de le faire. Ils ne l'ont pas fait tout de suite. Donc, l'empereur déclare la capitulation, mais le double de quelque chose qui va être pour Mishima une vraie révolution, pour certains japonais une vraie révolution, toute l'extrême droite japonaise est autour de ça. L'extrême droite japonaise, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'extrême droite occidentale. Hein, mais c'est quand même de l'extrême droite, c'est du nationalisme. C'est que l'empereur était d'essence divine, même si ça nous paraît... totalement farfelu, c'était comme ça. Et la déclaration de l'empereur publique, c'est de dire « Je n'appartiens pas à l'essence des dieux, c'est faux. » Le Japon s'écroule. Pour certains, c'est là. C'est fini. C'est fini du Japon ancien, c'est fini des valeurs des Japonais, ça y est, les Américains ont gagné, la marchandise va arriver, on est vendu, ils se sont pendant très longtemps préservés, et on... Voilà, c'est la bascule. Ce que ne va pas accepter Mishima, jamais. Donc ça, c'est les époques troublées. C'est-à-dire deux moments où il y a une révolution dans ces deux pays, ces deux personnes l'ont vécu. Après, ils ont tous les deux un amour extrême pour le théâtre. Le théâtre, c'est-à-dire l'action en scène, ils écriront beaucoup de théâtre, et la théâtralité en général. Tous les deux vont théâtraliser énormément leur vie, leur apparence, et mettre en scène leur provocation. Donc ça, ils sont vraiment très semblables. Vous savez que Sade était passionné par le théâtre, et Sade, quand il était à Charenton chez les fous, la fameuse pièce Mara Sade, si vous la connaissez, est tirée de ça, mais ça c'est vrai. Sade était donc copain avec le directeur de l'hôpital qui le trouvait d'une intelligence inouïe et pas fou du tout. Et ça, tu dis, je m'emmerde, tu es les fous, je m'emmerde. Donc, on va faire du théâtre avec les fous. Et ils faisaient du théâtre avec les fous. Et toute l'intelligentsia parisienne, ça s'est répandu, n'avait de cesse que de venir à Charenton pour venir voir les pièces mises en scène de Sade avec les cinglés, mais les vrais cinglés. Et Sade régnait là-dedans, il adorait ça, il leur faisait faire des choses absolument insensées. Donc il avait ce goût du théâtre, a été très très fort, et persuadé que le théâtre pouvait être une thérapie. Mishima, on observera la même chose. Il va énormément, lui, écrire des pièces, il va aussi filmer, et il va se donner le premier rôle dans les films, et il racontera sa vie, et voilà, tout est très théâtralisé. Après, ils ont tous les deux une chose vraiment en commun, c'est que la vie et l'œuvre est quasiment indissociable. De leur comportement, leurs écrits, leur comportement intime, tout est rendu quasiment public, ils racontent tout, ils écrivent tout, ils écrivent eux-mêmes, ils théorisent sur eux-mêmes, sur ce qu'ils viennent de faire, et donc c'est une espèce, on ne cache rien, il n'y a plus de figure cachée, Sade racontera ses frasques sans aucun problème, en disant mais c'est un sujet comme un autre, j'ai rien à cacher, et d'ailleurs c'est la liberté, il faut, je dois pouvoir dire, voilà, vous écoutez, et Mishima est exactement dans les mêmes dispositions. Alors Mishima le fera par des écrits et par des films, où on pourra voir, on en viendra des moments assez surprenants. Après, ce sont tous les deux des hommes à scandale. Parce que non seulement ils mélangent vie et œuvre, mais en plus ils font des scandales. Alors bon, ça, pas ces scandales, sont à répétition, sont évidemment essentiellement, ils tournent autour de la chose sexuelle, mais en fait, ce qui rend ça très intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement ça. C'est qu'il deviendra un grand ami des révolutionnaires, il aura des textes politiques très très fort. Après, il retournera plus ou moins sa veste. Enfin, c'est un. Il y a des prises de parole et des actions, au sens propre, assez scandaleuses, qui marquent l'étonnement, des recoupements, des façons de s'en sortir de des situations qui sont vraiment de l'ordre de la personne scandaleuse. Et Mishima sera, pour le Japon, l'homme à scandale. En gros, si vous voulez, Mishima, pour les Européens, c'est le premier homosexuel reconnu au Japon, qui l'affiche. On n'affichait pas. Au Japon, on n'affiche pas sa sexualité. Elle n'est pas du tout, c'est pas un pays répressif, ni un pays où ça n'existe pas. Mais on n'en parle pas. On ne parle pas de sa vie, et on ne parle pas de sa vie sexuelle, ça ne se fait pas. On fait ce qu'on veut. Et grande littérature qui est sortie sur l'attitude des samouraïs entre eux, tout ça, tout le monde le sait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des pédés chez les samouraïs, mais ça veut dire que ce n'était pas non plus. C'est comme dans la Grèce, c'était les guerriers, c'était pas complètement. Mais on n'en parle pas. Ils sont toujours gênés, les Japonais, de parler de sexualité, de parler de sa vie. Ça ne se fait pas. Et Mishima prend acte et en parle. Et parle du trouble, et parle de la société qui ne l'accepte pas, parle du refus. Et donc ça, ce n'est pas facile. Surtout qu'il décide de vivre à l'occidental. Double paradoxe, il vit dans une maison tout à fait typiquement anglaise, il s'habille complètement à l'occidental, il se marie, il a deux enfants et il a des amants. Et il a une milice qu'il paye, puisqu'il gagne énormément d'argent avec ses films et ses écrits, et il entretient une milice qui a pour but de réinstaller l'empereur dans sa splendeur. Vraiment. Donc tout ça fait scandale. Après, ils ont autre chose, c'est que tous les deux sont des gens attirés par la théorie, attirés par une forme d'observation de la vie et de nos comportements et de leurs comportements, essayant de trouver le poids de la société sur l'être humain, à quel point il pèse. C'est évident chez Sade et ça sera évident chez Mishima. À quel point. Évidemment, là, c'est là qu'il s'intéresse à la sexualité. Ce n'est pas la sexualité pour la sexualité, mais la sexualité est évidemment l'endroit où la répression et la tolérance de la société se fait le plus sentir. Elle plane autour, quand vous avez une sexualité normale, tout va bien. Sitôt que vous avez une pulsion qui est dite anormale, qui sort de la normalité, tout de même vous êtes troublé et la société chancelle. La société veut qu'on se reproduise, veut qu'on aime son papa et sa maman, et que ça se passe dans un certain ordre. Et quand on bouleverse les ordres, la société tremble. Et là, si tout le monde s'y met, c'est plus possible. On n'aura plus d'enfants. Enfin bref. Et donc, il faut contrôler tout ça. Depuis le départ de la vie en commun, on a eu de cesse que d'inventer des moyens nous-mêmes, de nous mettre dans un cadre pour qu'on soit à l'aise dans ce cadre, qu'on puisse s'épanouir et qu'on puisse être heureux, ben enfin, le cadre est très clair, il est pour qu'on agisse d'une certaine manière. Donc, Mishima l'a repéré, et Sade aussi, ils disent, ben nous non, absolument pas, on va faire exactement, on va tout bouleverser. Donc, ils sont très théoriques, et l'un et l'autre, mais ils ont aussi le même goût pour l'action. C'est-à-dire, Et Sade et Mishima ont le culte de l'action. Si ça doit rester dans les bouquins à écrire, ça ne vaut pas le coup. Il faut le vivre. Il faut le faire. Ah, évidemment, on passe à un autre stade. D'où Mishima, le suicide en public. C'est-à-dire, il faut que ça se termine par une action. Si j'ai perdu, plus personne ne peut réinstaller l'ancien empereur, j'ai écrit. Il venait de terminer le matin même, la mise en scène est absolue, hein. Le matin où il va faire son seppuku, il envoie à l'éditeur le dernier tome de son dernier roman, et en disant, je m'arrête là, un roman tout à fait passionnant d'ailleurs, je vous engage à lire, une tétralogie qui s'appelle La mer de la fertilité, et on voit vraiment tout ce que je suis en train de vous décrire au fond est dans La mer de la fertilité, et il termine et en disant maintenant, après ça, moi j'ai plus rien à dire, donc si le Japon ne se redresse pas, je me tue, et il le fait. Et de toute manière, Sade fera la même chose. C'est-à-dire, lui, écrire Les infortunes de la vertu, ou écrire Justine Boudoir, ou tout ce qu'on sait, ben non, si on ne le vit pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a tout simplement pas de sens. C'est du délire, et il faut le vivre. Donc c'est aussi assez particulier. Et je terminerai sur le dernier point, qui sont deux personnalités avec lesquelles, encore maintenant, on ne sait trop quoi penser. C'est-à-dire, c'est très difficile, au fond, de savoir... Ils sont difficilement cadrables. Ils sont séduisants, ils ont apporté des œuvres qu'on peut objectivement lire, mais tout de suite, on entre en collision avec des quantités de contradictions en soi-même, où la morale n'est pas... se réveille forcément... Et il continue à rouler comme ça autour de ces deux êtres, une grande difficulté à les faire entrer dans un créneau d'ordonnancement, probablement parce que vie et œuvre sont à ce point mêlées. Voilà. Mishima se fera filmer plusieurs fois dans les héros qu'il a écrit lui-même. Donc il se donne le premier rôle, enfin ça. C'est une mise en abîme perpétuelle, perpétuelle, perpétuelle. Écoutez, ça, voilà, moi, je ne sais plus le canevas.
Moi, j'en rajouterais voilà. Peut-être un aussi, c'est, je me semble, tous les deux, à un moment donné, rejoignent la cause politique, mais un peu guidés par une soif d'absolu. C'est-à-dire que chez Mishima, on peut quand même dire que son appartenance à l'extrême droite japonaise, en tout cas, Il prend prétexte de vouloir défendre l'empereur comme gardien de la vie culturelle, etc., etc. C'est un prétexte pour lui pour aller vers cette soif d'absolu, d'action, de pour mourir en héros, etc. Et ça finit par terminer pour lui cette grande contradiction d'avoir été un homme de lettres, qui est considéré comme une futilité chez les samouraïs quand même. Donc c'est une dualité comme ça, je crois que toute sa vie il va avoir du mal, il va finir par faire se rejoindre avec cette œuvre, La mère de la fertilité, et cet acte. C'est deux choses, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est un prétexte. Et chez Sade aussi, d'une certaine manière, il arrive en politique, un peu pour dire tous ces curetons, schématise hein, évidemment, mais voilà, c'est-à-dire tout d'un coup, dans son espèce de choses à la fois anti-péricales, voilà, aussi pour vivre une absolue liberté, puisque ce que disait Jean-Pierre, c'est-à-dire ça sert à quoi si on ne peut pas vivre tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il se trouve peut-être un certain repos dans l'écriture, à vivre dans l'imaginaire, mais que quand même, voilà, et on a l'impression que pour eux deux, lui aussi, tout d'un coup, il devient révolutionnaire, alors là, pour le coup, pas de manière lâche pour sauver sa peau, mais véritablement par conviction, je crois, parce qu'il dit, bon, là, il y a moyen peut-être, enfin, tous ces aristos-là qui... Oui.
Ce qui séduisait beaucoup Sade dans la Révolution, c'était évidemment la remise en cause de Dieu. Hein. Ça, oui. C'était son fer de lance. Oui. Il est profondément athée, et ça lui semble même une grande rigolade. Enfin, il dit, enfin, vous êtes totalement... Oui. Enfin, pour l'idée de Dieu, le fait hurler de rien. Il croit à la nature. La nature, c'est Dieu. C'est tout l'exemple qu'il va développer, c'est qu'on n'a qu'à regarder la nature et on fait comme la nature. Et nous ne sommes pas mieux que les animaux. Alors, bon, très bien. Et si nous ne sommes pas mieux que les animaux, puisqu'on tue les animaux, quelle importance ça a de tuer quelqu'un? Donc, c'est-à-dire qu'on enchaîne comme ça des actions et on voit dans les animaux copuler ensemble, peu importe si c'est l'enfant ou non. Donc, et voilà, et ça y est, Sade commence son statut. Ce qui est intéressant là aussi dans Mishima, c'est évidemment cette culture des arts martiaux, dont il sera, et ça sera un maître de kendo important. Il sera sixième dan de kendo, c'est beaucoup. Ça veut dire une pratique extrêmement forte de cette discipline. Mishima était un être malingre, pas très beau, ce qui pour lui a été une grande souffrance, et il n'aura de cesse toute sa vie que de devenir beau, au sens apollinien, au sens de se faire des muscles, d'être beau, d'être solide, il y arrivera, à force de musculation, enfin bref. Il termine avec un corps complètement façonné, et il passera des heures et des heures et des heures au kendo. Et on retrouve bien dans la fin de sa vie, cette action de terminer, enfin de faire une action justement, de ne pas rester dans le domaine des lettres. Pour Sade, c'est au fond le même procédé, mais à l'envers, puisque Sade écrit de manière étourdissante, hein, étourdissante, je pense que tu as une lettre de Sade, on vous en lira une, c'est un niveau de français absolument d'une maîtrise extraordinaire. Ça, c'était les lois de l'aristocratie, n'est-ce pas? Quand on était aristocrate, on devait savoir écrire. On était cultivé, puisqu'on n'avait rien à faire. Parce qu'on ne devait pas travailler, c'était ça la définition. Donc, on devait se cultiver. Et évidemment, là, il le prend comme une arme. C'est-à-dire, je me cultive, et je vais jusqu'à l'excès du très très bien écrit, et dans le raisonnement le plus invraisemblable, et en quelque sorte, ça devient des armes contre. Ça se retourne. Ça se retourne contre le culturel. Ça se retourne pour l'action. Pour ça, c'est clair. Il faut agir. Et agir, il y a de l'anarchisme là-dedans. C'est foutre le bordel. C'est ne se laisser enfermer dans rien. Mais à un point qui fait que l'homme, effectivement, voilà, bien. C'est seulement en 1957, rendez-vous comme 1957, c'est-à-dire hier quand même, au regard de l'histoire. En 1957, Jean-Jacques Pauvert a encore eu un procès quand il a voulu publier un livre de Sade. On en est là. C'est en 2004-2005 que on a exposé réellement le manuscrit. Vous savez, il a écrit. Salaud et les 120 jours de Sodome, c'est 2006. Salaud et les 120 jours de Sodome ont été écrits en prison. Sur un rouleau de 14 mètres, qu'il a, avec une écriture tout à fait obsessionnelle, évidemment, obsessionnelle et parfaite comme ça, et il cachait ses rouleaux. Et il savait que c'était son œuvre, les 120 jours de Sodome. Et ce rouleau, on le possède. Mais on a pu le voir qu'il y a en 2006, il y a une famille qui a montré l'exposition de ce rouleau qu'on a cru perdu, parce que quand il a dû partir de Charenton pour aller ailleurs, on lui a interdit de prendre ses manuscrits. Et quelqu'un va quand même trouver, un des sans-culottes, va trouver ce rouleau, Dieu merci ne le détruit pas, et ce rouleau va disparaître pendant des siècles et on va finir par le retrouver. Et en fait c'est en Allemagne, à Berlin, qu'on va le retrouver. Et il y avait un collectionneur qui l'avait, et ce rouleau passe de collectionneur à collectionneur. Mais 1957, encore un procès, vous vous rendez compte à quel point mais il y a de quoi. Moi, je trouve que quand on le lit, on peut comprendre. Je dis, justice de les appartiennent de la vertu. Ça sûr, juste avant tout le voir, j'ai remis de mes ans, si je puis dire. C'est vrai que il va vraiment très, 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 très loin. Hein. Très, 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 très loin. Moi, j'avoue que j'ai vu beaucoup de choses. Le film de Pasolini n'est pas. Il nous suit, il est en dessous. Il est en dessous. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus magique à l'écriture, parce que c'est tellement bien écrit qu'après, le problème du cinéma, c'est qu'on voit. On a une autre position, on est voyeur, alors que c'est très différent. Hein. Oui, ça, c'est des points.
Oui. Autre point commun, d'ailleurs, c'est la destruction de leurs œuvres. C'est-à-dire pour Mishima, par son père, qui ne voulait pas qu'il écrive, et qui, presque quotidiennement, entrait dans son bureau et prenait tout ce qu'il trouvait, le détruisait, parce que ça a été un auteur très précoce. Et ça, lui, pour ses raisons, oui, d'emprisonnement, mais quand même, on lui détruisait aussi quand on lui en trouvait des œuvres, parce que c'était considéré comme.
Disséminer l'écrit.
Voilà, ils essayaient de le contrôler. Donc ça, c'est un autre point commun. On aura beaucoup détruit. C'est vrai que Mishima a fini par réussir à en faire cacher chez des copines de sa sœur, je ne sais plus qui, enfin, il y a toute une histoire. Et sa mère a fini par devenir complice et a réussi à peu près à gommer les angles.
Moi, je trouve que ces figures sont intéressantes quand on parle de politique et quand on parle de la démocratie.
Oui.
On ne peut pas faire l'exclusion. Enfin, j'abonde dans votre sujet qui je trouve hautement passionnant de sexe et politique. Je trouve que c'est un grand sujet, vraiment. Enfin, non, c'est ça qui est le moteur quand même. Derrière, il y a la liberté, il y a beaucoup de choses. Et la démocratie, et ce que devient la démocratie. Et... Là, entre Mishima et Saad, Mishima fera le choix de l'art. C'est l'art pour l'art, Mishima. Pour Mishima, pas c'est là qu'il est. Alors là, il est très différent de Saad. D'une certaine manière, il est beaucoup plus proche de Masoch. Il est Masoch, donc il a donné le masochisme. Masoch avait une passion pour la culture et l'art. Et au fond, on obtient, on peut emmener l'autre à vous torturer en le séduisant par des images culturelles. Tout l'univers de Masoch sera de séduire les femmes pour les tsarines noires, leur donner un cadre intellectuel, esthétique, dans lequel elles vont... Il y a une culture énorme, des références énormes, mais tout ça pour arriver à un point très précis, c'est que la personne soit tellement séduite par l'art que par l'art, elle en arrive à faire un acte masochiste. Et ça, Mishima n'est pas éloigné de cette fascination pour la culture, l'art, le raffinement, la référence. C'est très japonais. Il y a dans une des constitutions du Japon, il y en a plein des récits sur les constitutions du Japon, mais dans une des constitutions du Japon, donc au moment où ils étaient des dieux, un des jeunes japonais tombe amoureux d'une mortelle. Alors, réunion des vieux japonais qui lui disent « Non mais attends, ben, tu peux pas, comme ça, aller en bas. » Non, non. Il faut que tu épouses une... Ah lui, non, non, c'est elle que j'aime, et tout. Et on dit « Non. » Alors, on dit « Maintenant, c'est clair, soit tu l'épouses et tu deviens mortel, soit tu ne l'épouses pas et tu restes avec nous. » Et il réfléchit et il dit « Je l'épouse. » Et on lui dit « Enfin. » Et il a dit « Oui, mais quand je mourrai, je la regarderai, elle est tellement belle. » Ça, c'est typiquement japonais. C'est-à-dire, quand c'est beau, il y a un moment de suspension. Ça s'arrête. C'est pour la beauté du geste, pour la beauté d'un objet, ils sont capables de faire énormément d'efforts et de choses, énormément de contraintes, parce que c'est plus beau comme ça. C'est ça, alors, Mishima est très marqué par ça. Ça, pas du tout. Ça, il est beaucoup plus intellectuel. Il est beaucoup plus manipulateur. C'est vraiment de l'ordre de la mécanique de la pensée. L'extase esthétique, il s'en fout un peu. Ce qu'il veut, c'est que ça marche et que ça combine. C'est un dominateur qui veut orchestrer, foutre le bordel. C'est deux tempéraments très, très... L'un sur ce plan-là est... Mais d'ailleurs, on verra, quand on voit Madame de Sade, d'une certaine manière, on voit ses positions comme ça trembler.
C'est vrai que Mishima, il s'illustre beaucoup dans la rigueur, c'est-à-dire c'est vrai qu'il finit sa vie avec un corps absolument sculpté, parfait. Il faisait des grands entraînements militaires, il souffrait énormément, il dépassait, alors qu'il était avec des jeunes de 20 ans, il y avait déjà 40 ans quand il a commencé ses entraînements militaires auprès des forces d'autodéfense du Japon, des forces japonaises d'autodéfense, ça, c'est l'inverse. C'est vrai qu'il termine, il l'a évoqué un petit peu Jean-Pierre tout à l'heure, il termine quand même très abîmé, et notamment...
Âgé d'ailleurs.
Oui, âgé, mais très abîmé effectivement à la sortie de détention, parce que il se fait... Il est très exigeant sur les douceurs. Il était assez bien emprisonné. Hein. Son dernier emprisonnement, il avait plutôt une chambre assez sympathique, etc. C'est pas pour... voilà, et il se fait livrer, il y a des lettres absolument magnifiques où il décrit le gâteau de Savoie à sa femme et comment il veut ce gâteau de Savoie. Il lui explique, si vous voulez, je peux vous le lire, non, parce que c'est rigolo, c'est très court, si je le retrouve. Oui, je l'ai mis de côté. Vous voyez, et c'est quand même à cause de ça qu'il termine très, très décaté, donc ils font vraiment, effectivement, le chemin inverse, là, pour le coup. Donc il dit... Le biscuit de Savoie n'est pas un mot de ce que je demandais. 1. je le voulais glacé tout autour, dessus et dessous, de la même glace de celle des petits biscuits. 2. Je voulais qu'il fût en chocolat en dedans et qu'il n'y en avait pas le plus petit soupçon. Ils l'ont bruni avec du jus d'herbe, mais il n'y a pas ce qui s'appelle le plus léger soupçon de chocolat. Au premier envoi, je te prie de me le faire faire et de tâcher que quelqu'un de confiance leur voit mettre le chocolat dedans. Il faut que les biscuits le sentent, comme si on mordait dans une tablette de chocolat. Au premier envoi donc, un biscuit, comme je viens de te le dire, 6 ordinaires, 6 glacés et 2 petits pots de beurre de Bretagne, mais bon et bien choisi. Je crois qu'il y a un magasin pour cela à Paris, comme celui de Provence pour l'huile. Voilà. Et donc, ils viennent après des années d'incarcération et de ce régime, ils savent perdu la grâce et l'élégance qui avaient fait sa réputation. Et on veut bien y croire. Alors que Mishima aussi sont décrits, si on parle de la nourriture, qui est finalement souvent pas très loin du sexe, au contraire, avec ses milices, ils commandaient des repas immangeables, toutes sortes de curry, mais en fait, il n'y avait pas du tout de curry. Vraiment, je pense que c'était du riz plus que basique, et c'était le repas, parce qu'ils se voyaient une fois par mois avec sa milice, et ils mangeaient, alors c'était vraiment... pas de plaisir, pour le coup, la chair, je ne sais pas ce qu'ils en font, mais en tout cas, la nourriture, c'est vrai que pour ça, effectivement, il était quand même beaucoup plus dans le masochisme. Ouais. Ah, ça, c'est pour le...
Est-ce que vous souhaitez intervenir enfin, voilà.
Moi, je rajouterais peut-être une chose sur les lettres. Parce que tout à l'heure, on parlait du Mishima qui était censuré par son père. Et c'est vrai qu'il y a aussi ça dans ses lettres. Moi, là, j'ai des lettres une partie des lettres à sa femme. Déjà, en prison, il a écrit plus de 900 lettres. Donc, sur 27 ans, bon, j'imagine qu'il devait écrire. Sad. Oui, Sad. Tu vois, c'est Sad. 900 lettres. Et en fait, c'est assez drôle parce que dans les lettres à sa femme, au début, il dit qu'il est un peu censuré et qu'en fait, lui, il écrit, mais comme ils le prennent pour un pervers et pour un dégénéré et un esprit hautement contestataire, quelqu'un recopie ses lettres. Donc, et quelqu'un recopie ses lettres et les censure. Donc, il ne peut pas vraiment dire ce qu'il veut dire. Et puis, alors, moi, j'imagine qu'à un moment donné, il a dû montrer patte blanche et qu'on lui a laissé écrire ses lettres parce qu'un peu plus tard, quelques années après, on a des lettres de lui, donc qui sont voilà, écrites à l'encre noire, très simplement, puis il y a des bouts blancs, des pages blanches, et en fait, il écrivait à l'encre invisible. Et ça fait qu'il y a soit il y a des lettres où une vie, en fait, il avait sa lettre à l'encre noire, assez sobre, où il parle de choses, il parle des châteaux, l'entretien des châteaux, il réclame. Alors moi c'était très précis dans les vêtements. Il veut tel vêtement, il faut que ce soit aussi bien fait, faut que ce soit par un tel. Tel vêtement n'allait pas, enfin, il est assez sec avec sa femme. Et au milieu de ces lignes noires, il y a les lignes à l'encre invisible, et puis des fois les dos de lettres, quand il devait rester du papier, à l'encre invisible, des fois même sur le papier sur le dessus de la lettre, en fait. Et où là, j'ai une lettre où il taille un sacré portrait à la mère de Madame de Sade.
Madame de Montreuil. Qui est
Madame de Montreuil, qui est... Alors, dans la pièce, elle est très présente.
Qui est celle dans laquelle se passe le salon. Dans son salon, ça se passe.
Et parce que Madame de Montreuil a essayé au départ, quand Sade a été emprisonnée, elle a essayé de le faire libérer. Finalement, elle a arrêté toutes ses démarches parce que sa fille lui mentait, d'après Mishima. Et puis, toujours dans la pièce de Mishima, Madame de Sade elle avait une lettre de cachet du roi pour faire emprisonner Sade dès que possible, en fait, s'il était libéré. Donc, et dans la pièce, l'acte 2, c'est l'annonce que le marquis de Sade a été libéré, mais qu'il a été tout de suite réemprisonné. Donc, elle annonce ça à sa fille, de la part de Madame de Montreuil. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans l'acte 3, cette même Madame de Montreuil espère qu'elle échappera au plus près de la guillotine grâce à la protection de son gendre.
Sa famille va être très trouble avec ça.
De son gendre, donc c'est assez... Et c'est vrai qu'au début des lettres, moi je lisais les lettres, donc au départ il n'y avait que des lettres à l'encre noire, et où il est assez cordial avec cette dame. Alors j'avais l'image de chez Mishima de rapport quand même très peu aimable. Et puis jusqu'à ce que je tombe sur cette lettre écrite à l'encre invisible. Alors, je vois bien que vous vous accoutumez à mon sort, ma chère amie. Donc déjà, il est aussi pas très sympa avec sa femme. Et que c'est jusqu'au bout que vous ferez durer votre charmant petit persiflage, aussi déplacé que ridicule, et qui n'est réellement pas fait pour vous attirer des sentiments bien chauds de ma part. Souvenez-vous bien que quelque chose que vous puissiez dire et faire, il ne me sera jamais possible de vous pardonner votre acharnement à taire une chose que tout prouve que vous savez. Mais vous me le dites par votre jargon, m'objecterez-vous. Peut-être, à la bonne heure, mais je ne vous entends pas, et mon malheur n'en devient que plus affreux. Que monsieur le garde des Sceaux veuille une prison, soit, mais que vous vouliez me persuader qu'il y joint la barbarie d'avoir ordonné que je sois ainsi moquée, bafouée, etc., voilà ce qui n'est ni peut-être, et les ruines de l'entortillage et du mensonge se reconnaissent trop bien pour pouvoir un instant douter de la main qui frappe. Cependant, à qui cela sert-il? Qui mieux que votre mère sait combien la solitude m'est funeste? Elle en a vu de bonnes preuves, elle en est persuadée, elle me l'a dit elle-même. Comment donc, d'après cela, non seulement me déranger la cervelle par cette solitude affreuse où mon esprit se perd tout à fait, mais même encore aggraver le supplice et augmenter le mal par l'exécrable force de me laisser. C'est inconcevable. Et on peut bien dire avec raison que dans toute cette affaire, elle s'est conduite avec moi en dépit du bon sens et de la raison. Il semble que toutes ces raisons, toutes ces manœuvres, comme disait le pauvre Boisset, aient été le fruit d'un souper d'ivrogne. Je ne connais rien de si juste et de si expressif que cette comparaison. Encore un coup, je le répète et ne cesserai de le dire dans toutes mes lettres, que gagnez-vous à me faire tourner la tête, sinon de me mettre dans le cas de faire de nouvelles sottises? Cela n'aboutit absolument qu'à cette fin. Croyez-moi, je me connais mieux que vous, la solitude et l'inquiétude seront toujours les deux plus grands poisons de ma tête. Donnez-moi des coups de bâton s'il le faut, je les recevrai. J'en serai quitte pour quelques jours au lit, mais au nom de Dieu, ménagez ma tête qui se dérange, je le sens. Je vous le dis, je me cache, mais cela est vrai. Ménagez-la, je vous en conjure, et ne perdez pas vos enfants, en exposant par votre ridicule conduite, comme vous le faites, leur père à les redéshonorer encore. Au nom de Dieu, ménagez-la, me faites souffrir mon corps s'il le faut, mais laissez la tête tranquille, j'en ai besoin pour ne plus faire de sottises. C'est pas la lettre que je pensais, c'était une lettre, c'était pas la lettre qui parle de la mère, mais c'est vrai qu'en fait, il y a tout un moment où il accuse sa femme d'être dans la rétention d'informations. Et où elle pense avoir des infos et il passe. Alors on parlait de l'éloquence de Sade. Et en fait, moi j'ai lu des lettres, mais de 4 pages, où il dit la même chose pendant 4 pages. C'est-à-dire qu'il se justifie de... il explique que si elle a certaines informations, il faut qu'elle les lui transmette. Et ce qu'elle lui a dit lui prouve qu'il va bientôt sortir, mais si elle ne lui dit pas, il ne peut pas le savoir, donc il va devenir fou, donc il faut qu'elle lui dise. Et pendant 4 pages, il tourne le temps en rond. C'est quand même assez surprenant. La phrase que j'attendais, c'est... Alors oui. Oh, je vous proteste que je vous offrirai cette opinion-là à tous tant que vous êtes, et surtout à votre foutue gueuse de mère, à laquelle vous pouvez dire que si elle m'aime... Elle n'est pas payée de retour, car je forme ici le vœu que pour la voir crever, et encore voudrais-je que ce fût au milieu des plus exécrables tourments. Et voilà, le début, si vous saviez, madame, combien je suis excédée de vos lettres, et combien après 4 mois de la plus exécrable de toutes les situations, il est cruel de voir mander absolument les mêmes platitudes. Tout ça, c'est écrit à l'encre cachée.
Je vais vous dire aussi que on a parlé donc, on en est arrivé à l'appropriation du mot sad, évidemment, avec sadisme, l'appropriation du mot masoche avec masochisme. Et je veux dire qu'il y a eu un artiste qui a souhaité terminer la trilogie des perversions sexuelles, c'est Dali. Dali a développé une thèse qui a pour nom le plédalisme, et qui est pour lui ce qui clôt, Dali est persuadé que c'est la Trinité, qu'il faut que quelque chose marche par trois, le délire des nombres, bon. Et le plédalisme, donc il y a le sadisme, le masochisme et le plédalisme. Et le plédalisme, c'est de faire l'amour à distance, c'est-à-dire ne plus se toucher, être voué à quelqu'un et obtenir la jouissance de loin. Alors, il développe un roman où l'héroïne s'appelle Solange de Cléda. Tout ça a à voir avec la société, évidemment. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et il l'écrit pendant l'occupation allemande. Enfin, son roman est pendant l'occupation allemande. Donc, des amants sont séparés pour des raisons politiques. Lui est aux États-Unis, a fui. Et elle est dans la paysannerie française, mariée avec un notaire qu'elle déteste, et arrive, le roman est assez dalinien, complètement étourdissant, et Solange de Cléda bouleverse son entourage, parce que les années passent, évidemment tout le monde vieillit, sauf Solange, qui reste absolument intacte. Alors le notaire n'y comprend rien, personne ne la regarde, mais elle n'a pas bougé, ça ne bouge pas, et pourquoi ? Parce que le soir, elle fait l'amour avec le vicomte de Grandsailles, qui est à New York, et qui, lui, a un masque de cuir, parce que, bref, il était pilote, et il a été... Et c'est l'extase est tellement forte que ça les préserve du temps. Et ça, c'est une théorie, Dali avait la prétention, il n'était pas à sa prête, de terminer en disant, il faut, tout marche par trois, et j'invente le clédalisme, qui bouleverse beaucoup la société. Et il s'appuyait là-dessus, pour créer sa théorie, qui n'est pas totalement farfelue, sur des exemples qu'on a retrouvés dans des comportements de chez les moines du Moyen-Âge, où on cherchait à savoir l'origine du monde et ce qu'était la jouissance. Donc, on prenait des jeunes paysans et on les éduquait, on les nourrissait de récits troubles et tout ça, et un jour on les mettait l'un en face de l'autre, et ils observent que la dame avait un jaillissement de larmes et le monsieur un jaillissement de sperme, et ils disaient « alors, ça marche, c'est le... » Et là, Dali s'excite beaucoup et écrit et à partir de ça. Mais ça, c'est ni plus ni moins ce que vous allez retrouver chez Marivaux dans la dispute. Hein. C'est exactement ça. Marivaux dans la dispute décrit ça. Les jeunes gens élevés comme des animaux pour voir comment c'était à l'origine du monde. Ça s'est fait dans des laboratoires qui étaient donc des laboratoires du comportement et de la pensée qui étaient tenus par des moines qui cherchaient à comprendre et à refaire l'origine des choses. On séquestrait des êtres et on refaisait l'origine des choses. C'était déjà des penseurs qui organisaient les choses. Et Dali reprend les choses à ce moment-là. C'est-à-dire au fond le moment où on commence à créer la notion d'amour. Vous savez, c'est exactement au moment du Moyen-Âge, c'est au moment où on se rend compte qu'il faut inventer cette notion pour qu'elle devienne un acte de civilité, qu'on ne fasse plus ça comme des animaux. Et la notion d'amour va prendre au Moyen-Âge une importance énorme. L'écharpe de la dame, les privations, tout ça est lié à la religion, évidemment, mais est lié aussi... On commence à répartir dans les chambres et dans les châteaux, à avoir des chambres, parce qu'avant ça n'existait pas, on dormait là, comme ça, tous ensemble, tout le monde se grimpait dessus. Et c'était, voilà, et petit à petit, ça s'est ordonné. Mais nous venons de ça, nous venons de cette humanité-là. Et l'amour est un acte mental qui se traduit par Mais c'est un acte, et là-dessus, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses écrites, et la psychanalyse, évidemment, interviendra grandement maintenant sur qu'est-ce que je dis quand je dis je t'aime, dans l'espace de Lacan, qu'est-ce que c'est. Évidemment, c'est une notion qui a l'air d'être un mot comme ça, appartenant à la société, qu'on manipule, qu'on dit oui, mais en fait, c'est une pensée.
Justement, je trouve que d'ailleurs, cette commission-là arrive très bien à faire à travers cette pièce, justement, c'est-à-dire à amener Sade comme une pensée, enfin, c'est-à-dire à travers les personnages et surtout chaque figure des femmes, que ce soit sa belle-sœur, donc la belle-sœur de Sade, sa femme ou sa belle-mère, ou Saint-Fond, qui là, pour le coup, une figure inventée, je trouve que c'est assez admirable parce que, bon, ce sont beaucoup de dialogues qui sont presque comme des combats, alors c'est tantôt entre la mère et sa fille, puisque la mère voudrait qu'elle demande la séparation de corps, ne comprend pas pourquoi elle s'évertue, d'une certaine manière, c'est là, et on sent la question de Mishima, pourquoi elle s'évertuée, une séparation de corps, on lui aurait évidemment, même à cette époque-là, on lui aurait accordé avec beaucoup de facilité, et c'est très beau parce que, tout d'un coup, alors que de ça, on en a souvent une idée comme ça, un peu fantasmagorique, pas très agréable, parce que le sadisme, ben, quand on imagine qu'il fait des coups de canif à des gamines, bon, c'est vrai qu'a priori, comme ça, bon, ouais, c'est vous voyez, puis des très jeunes filles de 15 ans, donc, moi, mon premier... J'ose, tant pis, je me disais finalement, est-ce qu'un type comme Dutroux, aujourd'hui, s'il écrivait, si dans Centrale où il était, il avait une grande production littéraire, on en ferait quoi aujourd'hui ? Non, mais c'est une vraie question. Hein, toujours avec. Non, mais. Là, il est à son époque, criminel, il reçoit des jeunes filles, il leur donne des coups de canif, il y a beaucoup de sodomie, c'est lié à la peine de mort.
Je pense que c'est. Parle-moi.
Non, mais.
Oui, mais je pense que ça montre.
Je suis très basique.
Ce que ça montre, c'est notre fascination pour l'excès. L'horreur et la fascination pour l'excès. L'horreur et la fascination pour le grand criminel. Et là, c'est là que Sade est intelligent et dit mais ça vous fascine parce que vous n'osez pas le faire et qu'en fait, c'est une partie de vous qui le fait. C'est ça qu'il dit. C'est la nature qui parle. Vous l'avez tellement séquestré, vous ne vous rendez pas compte. Moi, je ne suis pas en train de défendre ça, hein, parce que ça va aller très très loin. Mais, oui, mais il faut le... Il écrit, il agit. Son influence est extrême dans l'art contemporain. Extrême. Dans le surréalisme, il sera déterminant. Donc, en faire l'économie, c'est difficile. Hein. L'apologie, à mon avis, c'est de la stupidité, mais le lire et essayer de voir où on en est avec la sexualité, où on en est avec la liberté, et c'est ça l'exercice de la réflexion. Je pense que là, il est un partenaire de la réflexion. Ce qui ne veut pas dire qu'il a raison, mais il est partenaire de la réflexion. Là-dessus, il y a une très jolie phrase, je trouve, de Madame de Sade, qui est dans Madame de Sade, et c'est Madame de Sade elle-même qui le dit. Je trouve la phrase très belle en ce qui concerne Sade. C'est un homme dépourvu de sentiments humains qui se plaît à clore de grilles le monde des hommes et à se promener alentour en jouant avec les clés. Il est le gardien des clés, lui seul. Ça, très beau. Cette idée qu'il a mis le monde en grille, en cage, et qu'il en a les clés, c'est intéressant. En tout cas,
voilà. C'est pour ça que je voulais dire le prisme, de le voir à travers le prisme d'un auteur comme Mishima, qui est lui-même très complexe dans sa pensée, quelqu'un d'extrêmement intelligent, etc. Je trouve que ça aide beaucoup, justement, à sortir de cette espèce de sentier battu, de cette première réflexe qu'on aurait, ou de l'apologie, ou au contraire du rejet complet en se disant mais ça n'était qu'un inceste pédophile type qui faisait du mal. Effectivement, voilà, je trouve que Mishima, justement, le remet dans sa complexité en faisant parler ces femmes qui ont beaucoup compté pour eux, et qui réellement sont elles-mêmes énigmatiques, parce que c'est vrai que Madame de Sade, elle est restée fidèle à son mari. C'est magnifique ce qu'il lui fait dire. Parce que c'est pas non plus une fidélité stupide, c'est pas une fidélité idiote d'une abrutie qui serait restée là comme ça parce qu'elle aurait eu... Vous voyez, c'est développé de manière extrêmement complexe et riche.
Au fort, fort, fort.
Tout ce que vous évoquez dans ces dernières phases me fait penser à... Est-ce que vous pourriez, en repartant peut-être du troisième récit, où vous disiez que Madame de Saint-Fond, c'est ça?
Oui, Saint-Fond.
Vous avez en troisième aussi. Vous avez évoqué quelque chose dont vous avez dit, on en parle hein, peut-être tout
à l'heure. Ah oui. C'est lié à la révolution même.
Pardon.
Je crois que c'était la barbarie, en fait. C'est ça, non?
Oui, et puis ça m'avait semblé être de l'ordre de passer de l'autre côté, à un moment donné, du sadomasochisme, enfin de tout ce qui peut se passer comme ça dans le cas-là, vraiment, comme oui. Si, et alors là, je dis pourquoi je vous dis qu'on en parle, parce que c'est dans un instant, à la fois, aussi bien Sade que Mishima sont des gens de la pensée, intellectuels, et vous avez après bien insisté des personnes de l'acte, et ça me fait penser que parfois les gens arrivent au niveau de l'extase et de passer de l'autre côté de quelque chose, puisqu'il y a des saints qui sont dans la méditation, alors il y a des saints, il y a des grands bouquins qui expliquent que les saints sont passés à un stade.
C'est l'illumination dont je parlais tout à l'heure, la notion d'illumination.
Le corps nous amène aussi à l'extase par une production. Pas de phéromones, de plein de choses. Je connais très mal, mais bon, voilà. Et est-ce que c'est pas certaines personnes qui arrivent par un certain acte, et Mishima d'ailleurs, c'est assez fascinant ce que vous dites, parce que grand intellectuel et grand lié au Japon, à une époque où les aristocrates étaient liés à être des sens divines.
Oui.
Il s'intéresse à Sade, qui lui n'est absolument pas est dans l'athéisme, mais est-ce qu'il n'arrive pas à un même état d'extase au point que le sadomasochisme ressemble à l'économie vulgaire, à Harakiri?
Je vous entends. Si on parle de l'illumination chez l'un et chez l'autre, chez Madame de Saint-Fond, c'est là. Chez Mishima, c'est déclaré, il y a la notion d'illumination. C'est-à-dire, il est d'essence bouddhiste. Si vous prenez les quatre livres des Mères de la Fertilité, c'est un très très beau roman d'amour, la Mère de la Fertilité. C'est vraiment magnifique. C'est le Japon qui démarre aux années 30 et qui va jusqu'aux années 50. Et on suit un héros, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Mishima, par rien des côtés, évidemment. Et en fait, ça va être le roman de la réincarnation. Ils vont mourir, ils vont se réincarner, il va se réincarner, et on va suivre son évolution et tous les personnages, parce que c'est bouddhiste. Et ça, c'est vraiment une description du Japon et de l'amour. Alors, c'est un très très beau roman. Il y a, chez Mishima, de se dire que ce qu'il faut, c'est accéder au vide. C'est-à-dire, nous, on dirait, en général, la notion la plus facile, c'est Dieu. Lui, c'est le vide. C'est-à-dire, nous sommes, Mishima pense que nous sommes des morceaux de néant. Et que nous donnons forme au néant. Et qu'en fait, ce qui nous habite et ce qui nous inquiète, c'est le néant. Et que, quand on a l'illumination, on disparaît dans le néant. C'est un acte fulgurant. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est avec cette tension-là. Et qu'on est en rapport d'équilibre. D'une certaine manière, Sade veut obtenir la même chose en disant il n'y a pas Dieu, il y a la nature, et ce qu'il faut, c'est détruire la société. Il faut désorganiser le social. Le social nous empoisonne. Le social régit notre vie, dans ce cas-là le plus intime, je ne le supporte pas. Ça régit ma sexualité, ça régit mon imaginaire, je ne veux pas. Je veux, à proprement parler, être libre. Et il a l'audace, liberté, égalité, fraternité, évidemment, avec les révolutionnaires qui vont très loin dans la réflexion. Bon, c'est une période incroyable intellectuellement. Et ils vont réfléchir, ils vont être séduits par l'aspect si enraciné dans la liberté de Sade, et si refusant la tutelle de Dieu. Ça va les séduire beaucoup, les plus intellectuels vont dire, mais oui, il faut aller jusque-là. Mais après,
Il refuse toute organisation. Cette organisation est proche de l'illumination. C'est-à-dire, si j'arrive à foutre le bordel complètement, et où dans ma vie, et où je n'ai plus de culpabilité du tout. Et c'est ça, Madame de Saint-Fond. Elle est, et ce que vous verrez dans le spectacle, elle est totalement illuminée. Elle dit, je suis une putain. Mais oui, mais si vous saviez, c'est même pas le plaisir uniquement de se faire prendre par tous les bouts, c'est de l'afficher, c'est d'être en dehors de toute morale, d'être, que vous me détestiez, que vous me regardiez, que vous ne puissiez pas m'atteindre, vous ne pouvez même pas imaginer là où je suis. Réorganiser à partir de là, c'est une forme d'illumination. Ils ont découvert, et d'ailleurs, le troisième acte, quand on décrira comment elle s'est fait décapiter et tout, la manière dont on le décrit, on a l'impression que c'est un dernier acte de jouissance extraordinaire, et qu'elle s'est livrée au peuple en disant « Mais allez-y, allez-y, coupez-moi, foutrez-moi, allez-y !» Et la coupe et tout, la fin. C'est ça. On obtient la même disparition dans l'illumination, dans le fait qu'on... Oui, on pulvérise quelque chose. C'est, en fait, ce dont on est en train de parler, d'une certaine manière, c'est de la jouissance. C'est pour ça que, quand on parle de sexualité politique, vraiment, c'est ça le problème. C'est l'orgasme le problème. C'est la liberté. C'est comment je l'obtiens, avec qui, avec quoi, quoi dans la tête. On ne peut pas ne pas être... C'est un sujet important quand on voit à quel point on nous formate, à quel point on voit que l'industrie pornographique devient comme un parcours obligé de la sexualité. On est quand même à un degré là de tolérance et de marchandisation absolument incroyable. Et nous, là, on est à peu près, on n'est pas loin, on a dans la maturité de notre corps et de notre pensée, mais toute cette jeunesse qui découvre l'image porno comme ça, quand vous lisez ça, vous pouvez être que troublé. Parce que, c'est dit, mais non, ça a vraiment avancé, parce qu'en fait, et on marchandise, c'est parce que ça fait du pognon, parce que ça se vend, alors ça existe. Et on formate des comportements, c'est sûr.
Même je m'étonne pourquoi Sade, qui était bon libertin, il a été soutenu donc par les révolutionnaires, et cette femme, Madame de Saint-Fond, qui elle aussi avait atteint donc la même liberté, elle a été donc guillotinée. C'était bien une aristocrate.
Madame de Saint-Fond?
Oui.
D'abord, Madame de Saint-Fond, elle est inventée. Elle est inventée par Mishima, mais elle a existé. C'est-à-dire, franchement, Madame d'Aumal, enfin, je ne peux pas l'accuser, cette pauvre Madame d'Aumal, mais enfin, vous savez, c'est la fameuse maîtresse, enfin, quand même, c'est ce qu'on dit de Marie-Antoinette. Bon, Marie-Antoinette était accusée très fortement de relations entre eux avec Madame d'Aumal. Donc, Madame d'Aumal était vécue par le peuple. On l'appelait la catin, là, c'était vraiment la gouine, c'était qui disait, c'était terrible. Cette Madame d'Aumal va être un martyr de la Révolution et on va la découper et devant la Marie-Antoinette, on va lui montrer sa tête, la tête coupée. Les aristocrates, d'abord, c'est une période extrêmement intéressante parce qu'alors là, on dirait un roman de Sade quand même. C'est-à-dire, vous avez un niveau intellectuel extraordinaire. Vous avez aussi un degré de crétinerie absolument invraisemblable, puisque tout le monde a droit à la parole. Donc, excusez-moi, mais la majeure partie de la société n'est malheureusement pas faite des plus grands cerveaux. Donc, vous avez des refoulements invraisemblables là-dedans, et tout ça est sur la place publique, et vous perdez votre tête en moins de temps que comme ça. En 2-3 jours, c'est vous, vous êtes accusé. Vous n'avez pas vu la pièce formidable qui s'est faite là au théâtre des Célestins qui s'appelait Notre Terreur. C'était un groupe de... C'est très très intéressant ça. Alors vous revenez sur la période de la Terreur, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Tous les enjeux qu'il y a à l'intérieur et les discours de Robespierre qui dit qu'à partir du moment où on est un vrai citoyen et qu'on accuse quelqu'un, mais puisqu'il est un vrai citoyen, on n'a pas besoin de lui demander des comptes. Donc si monsieur dit que madame est une mauvaise citoyenne et que je sais pas quoi, eh bien on dit ça y est, votre sort est réglé. Il y en a des quantités qui ont été réglées comme ça. Donc, et des aristocrates et des non-aristocrates, des aristocrates particulièrement, suivant comment ça se passait. Donc, il fallait vraiment que Sade soit extraordinairement habile et convaincant pour échapper, alors qu'il était, parce que tout de même, s'il y a, et ça on le sait, ça a toujours été comme ça, s'il y a un domaine sur lequel les gens sont extrêmement répressive, c'est bien le sexe, et particulièrement, je dirais, les petites gens, c'est-à-dire le comportement moyen est très vite scandalisé, dit mais mon enfant, si ça lui arrivait, enfin, ce qui est non, on comprend, mais on voit bien, c'est le scandale, ça agit très très fort, les grands criminels et les grands pervers sur les gens. Alors il faut vraiment qu'on ait des prisons, parce que vous vous rendez compte, si tout ça est en liberté, c'est une manière d'ailleurs d'orchestrer le pouvoir que de mettre en avant quelques scandales comme ça pour dire, vous voyez, pour faire gaffe, il faut des médecins et il faut de la psychiatrie parce qu'attention, il y a des vrais pervers. C'est une partie de la vérité, c'est surtout une manière de récupérer du pouvoir à l'intérieur. Donc, les petites gens, je dirais, au sens de qui manquent de moyens, de réflexion, veulent protéger leur intérêt immédiat, leurs enfants, ne pas entendre toutes ces histoires, donc on les supprime. Et il faut bien dire que l'aristocratie de l'époque, et peut-être, quand on a commencé, n'est-ce pas, notre conversation, en disant que les bonbons à la Cantharide, c'était les bonbons de Richelieu. Mais on les vendait comme ça. C'était écrit sur la publicité. On a à un point imaginé qu'on vend des bonbons du pape pour s'envoyer en l'air. Enfin, qu'on va au sex shop, et c'est ça. Qu'on est au sex shop pour trouver comment l'autre faire. Bon, ça va. Et bien, c'est ça. C'est ça. Tout simplement ça. C'est pour montrer le degré de perversion dans lequel cette aristocratie était pour ça. Pour en arriver là.
Bon. Mais d'ailleurs, ça, il est passé pas loin de la guillotine. Hein. C'est-à-dire qu'il a d'abord, dans un premier temps, quand il a été libéré, il est allé dans le comité c'était les filles, quoi, de son quartier, on va dire. Il a très vite, parce qu'il avait des grands talents littéraires, on lui a vite confié la rédaction de discours, etc. Il était citoyen, il s'appelait donc François de Sade, mais dans le même mot. Mais, en 2 ou 3 ans après l'histoire de ce comité, puisqu'à l'époque aussi, je pense que c'est vrai, ça ne devait pas voler haut, donc on devait chercher partout et chercher à exhumer des documents, quelqu'un sort un document montrant que Sade a demandé des appuis à des anti-républicains, donc que c'est un anti-républicain. Et ça, c'est avant de commencer son histoire avec le comité, etc. Lui, donc, est emprisonné, il dit, mais c'est un malentendu, j'ai demandé ce soutien, mais parce que je croyais que, mais vraiment, moi, je suis citoyen, mordicus, de toute façon, je suis paysan de base.
Ah oui, il faut lire, quand
tu dis, c'est vrai, j'ai été mariée, mais là, je suis séparée de corps, de toute façon, déjà, je n'ai plus 15 ans avec elle, parce que j'étais emprisonnée, bon, j'ai eu mes trois gosses, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait, s'ils sont émigrés, je les ai, je ne veux même pas en entendre parler, de toute façon, je les connais pas, j'ai réclamé, bon bref, il dit, les types de mon comité vont me soutenir, mais non, il l'enfonce en disant que oui, ils ont toujours quand même douté de sa bonne foi, alors que, véritablement, en très peu de temps, il est arrivé au sommet de son comité à qui on nous confie beaucoup de choses, et il ne vaut sa survie qu'un heureux hasard, c'est que quand on vient chercher 5 ou 6, quand on vient chercher les guillotinés du jour, il en manque à l'appel et ça manque, il n'est pas là. Et du coup, après, Robespierre se fait évincer et du coup, c'est plus lui qui est dans la charrette. Mais vraiment, ça s'est joué au fil du rasoir. Et c'est vrai que c'est dire à quel point ça devait être un type quand même admirable, ce sac, parce qu'il a réussi comme ça. Et en plus, c'est pas du tout de l'entourloupe, hein, d'appartenir, son appartenance qu'on disait tout à l'heure à la République, enfin, là, il avait vraiment foi en ça. Mais bon, après, il se défend comme il peut. Elle est savoureuse, la lettre aussi qu'il fait, hein, puisque alors, d'un côté, on remplissait des cases pour dire de quoi il est accusé, comment on peut penser que c'est un anti-républicain, et lui remplissait les mêmes cases pour dire mais non, non, non. Donc c'est formidable, parce que vous pouvez comparer les accusations. C'est ça, c'est dans la très bonne biographie de Lily qui a ça.
Est-ce que les dessins des femmes, enfin les femmes, les crimes sexuels des femmes devaient quand même beaucoup plus vite condamner que les crimes sexuels des hommes aussi? Dans la tête de CD, puis même bien après. Jean-Louis Maury l'a évoqué ça aussi à propos des dessins des homosexuels. Le littéraire bénéficie aussi, l'écrivain, bénéficie quand même d'un crédit de.
Tu as dit ça au moment de Marseille, il n'est pas encore écrivain.
Oui, non, enfin,
ah oui,
un homme,
dans l'absolu.
Il
reste au XVIIIe siècle.
On est moins pardonné aux femmes la liberté sexuelle de toute façon.
Ouais. Il y a un tabou qui est au XVIIIe siècle extrêmement difficile, c'est la sodomie. Ouais. Ça,
c'est pas
alors là, il y a tout le monde est contre. Et précisément, l'histoire des bonbons à la cantharide, c'est qu'elles vont dire qu'il a proposé la sodomie, qu'elles ont refusé, ça personne n'y croit parce que toutes les putains acceptaient, mais c'était pour le charger parce que là, c'est la pire des choses. Et la pire des pires, c'est qu'il le faisait avec son valet réciproquement devant elle. Alors là, ce qui probablement était vrai, puisque ça, il l'a écrit plusieurs fois. Donc, mais alors ça, c'est un point terrible. Ça, la société, là-dessus, s'arrête, se bloque et dit... Et là, il aura beaucoup, beaucoup de mal à justifier tout ça. Ça restera, au XVIIIe siècle, un point très, très important. De non-tolérance absolue. Ça, c'est pas possible. Quand vous accusez quelqu'un de sodomie, qui vous a proposé ça, ou que quelqu'un le fait...
Oui, d'ailleurs, sur les cinq, pas toutes, mais elle l'accuse bien et elle dit qu'il l'a fait avec une d'elle et voilà. Lui par son valet. Et en même temps, son valet, lui, le prenait. Donc, il est vraiment accusé et d'ailleurs condamné à mort pour ça.
Oui, oui. Oui, ben, il sera condamné à mort. Mais il échappera. Voilà. Il est très calme. Oui.
C'est vrai.
Mais d'abord, à part Salaud, pas Salaud, les 120 jours de Sodome, qui lui donc a le destin qu'on a dit, n'est-ce pas? Mais sinon, si on prend Justine les Impotunes de la Vertu ou autre, ça lui rapportait beaucoup d'argent. Il avait des droits d'auteur, si je puis dire. Ça se vendait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes d'argent toute sa vie. Il a dilapidé la fortune de sa femme. Il était très, très, très dispendieux. Évidemment, de 30 balles, ça coûte très cher. Et les livres étaient publiés. Et on lisait Sade. Ça, vous le verrez, dans Madame de Sade. Tout le monde le lit. Tout le monde veut le lire dans les salons.
Si, mais...
C'était des petites éditions. Ça se trouvait sous le manteau. Il n'y a rien de tel qui se vend le plus cher possible et que tout le monde peut avoir.
Mais son éditeur lui dit, écrivez-moi un truc poivré et justifiez voilà. Ça comme
son
ça.
Son éditeur a été guillotiné.
Ouais.
Précisément parce qu'il publiait des choses liées à la sodomie. Ça a été ça, en fait, l'anathème pour lui. Parce que ça parlait de sodomie. C'était vraiment... ce point-là est très, très important. Mais les livres lui ont beaucoup rapporté. Justine, c'est ça quand même, Justine est obtenue de la vertu, si vous n'avez pas lu, accrochez-vous. Hein.
Il est remis hein, d'ailleurs, il dit c'est pornographique, je l'ai écrit pour le film.
C'est quand même c'est un récit invraisemblable.
Beaucoup des livres étaient publiés anonymement. On a d'ailleurs
oui, bien sûr,
des livres de Sade disant mais c'est pas moi qui ai écrit le film.
Bien sûr.
Ah, il y a une lettre à un policier où il accuse un journaliste d'avoir prêté l'écriture de ce roman. Et il y avait un fort, ça a été étudié par les historiens de la culture du XVIIIe siècle. Il y avait tout un filon de distribution de livres qui étaient soit publiés anonymement, soit qui étaient édités à l'étranger. C'est-à-dire notamment en Suisse ou en Hollande, où on imprimait des livres en français et clandestinement on payait la douane, on dressait la patte aux douaniers et ils circulaient sous le manteau. On connaît très bien, on a repéré maintenant avec les archives des libraires, notamment à Lyon, qui était une plaque tournante de livres qui venaient de Suisse et les imprimeurs, les éditeurs se faisaient beaucoup d'argent là-dessus, les auteurs un petit peu moins. En bout de compte, c'est effectivement qu'il y avait des commandes. Et de ce point de vue-là, Sade, il est aussi, même s'il est dans un extrême par rapport à un style, mais un style d'écriture, de roman, qui est un style littéraire qui est florissant au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que le roman pornographique, c'est quelque chose que beaucoup d'écrivains, surtout quand ils ont des fins de mois difficiles, écrivent. On en a plein dont on ne sait pas trop qui les a écrits. Thérèse Philosophe, par exemple, qui est un cas classique de cette littérature pornographique qui a directement inspiré ça. Hein, on retrouve des choses et qui sont aussi des livres à la fois pornographiques, mais avec une critique sociale. C'est-à-dire quand on aime bien bien mettre en scène dans ses romans les curés, évidemment, qui se livrent à toutes ces fornications possibles dans leur couvent, mais aussi des aristocrates, et on a été évoqué, Marie-Antoinette, qu'est-ce qu'on a dit sur elle, à tort ou à raison, sur sa vie sexuelle dissolue.
Et d'ailleurs, ça,
l'imaginaire est très fécond sur cette époque, sur toutes les combinaisons. C'est assez troublant, d'ailleurs, parce qu'on se dit, quel fantasme collectif, qu'est-ce qu'il y avait ? Peut-être une partie de la réalité, mais quand même, ça devient effectivement, il y a beaucoup de récits, on en parle énormément, la société est très travaillée par tout ça.
Et je ne sais pas comment était la Hollande, là, vous parliez de la Hollande, mais ça, il fait une tournée à un moment en Hollande, et il revient, il dit, mais je me tire de l'affaire de Molière, parce qu'il en revient ravi, parce qu'il va dans des bons hôtels, on le nourrit, et qu'il n'est pas caché. Alors, je ne sais pas comment ça se passait en Hollande à l'époque.
On sait que le régime mais, était voilà, davantage régime, démocratique, et puis là...
Il en revient ravi en se disant c'est terminé.
Le poids de la censure était moindre. Alors aussi parce qu'il étudie en hollandais, mais en français, donc hollandais.
Oui, c'est vrai, c'est pas très facile. Oui, c'est vrai, c'est pas facile. En tout cas, il est content.
Annoncer le spectacle. On va annoncer les dates du spectacle.
Oui.
Alors,
le 20
ou 31.
Du 20 au 31. Voilà, dans la nouvelle petite salle du TNP, dans le petit théâtre. Il y a vraiment il y a de très belles actrices. Vous verrez, c'est des rencontres d'actrices vraiment de haut niveau.
Ouais,
très beau.
Très beau texte, belle distribution.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup.